Vous m'avez dit que Sébastien était booké tous les samedis, avait donc amélioré son ordinaire, mais il y a aussi un point, c'est que il est mieux considéré et à l'extérieur et à l'intérieur. Vous avez démarré en disant, vous allez vous former au web pour votre usage personnel. Et c'est le lien entre l'usage personnel, l'intérieur et l'extérieur, qui serait peut-être intéressant d'approfondir.
D'accord. Alors, effectivement, quand on a lancé notre opération, on l'a lancé en financement droit individuel à la formation. Donc, le financement droit individuel à la formation, ça ne doit pas être technique, enfin, pas trop technique. Ça doit être transférable et vous devez pouvoir l'utiliser chez vous. Effectivement, les premiers cours, ça a été comment fabriquer un blog ou un site web pour son club de rugby, comment faire un blog pour la famille. Et là-dessus, d'ailleurs, j'ai encore une jeune fille qui effectivement apprend à faire son blog. Donc le soir, elle s'entraîne chez elle et elle fait un blog pour l'anniversaire de son mari. C'est une famille contemporaine, une famille géographiquement dispersée et recomposée, donc avec beaucoup de membres. Et donc, en quelques jours, elle arrive à capter sur son blog quasi les 80 membres les plus proches de la famille ou des familles. Et puis, elle apprend aux autres à utiliser le blog. Et elle leur apprend à mettre des photos dessus. Et elle apprend aux grands-parents comment ils peuvent voir les photos de leurs petits-enfants et ainsi de suite. Et elle, finalement, en quelques semaines, elle devient le pivot de son environnement familial. C'était une parmi les autres et elle devient le pivot de l'environnement familial. Et physiquement, elle change. Et dans son travail, elle change aussi. Et elle prend de l'assurance. Et elle commence à prendre en main des projets, et ainsi de suite. C'est la même chose que Sébastien. Sébastien, il est considéré tout à fait différemment par sa famille proche. Évidemment, il permet un fonctionnement de la famille qui est tout à fait différent. Donc, il prend de l'assurance. Et comment ça se retranscrit dans l'entreprise? Il se trouve qu'il se forme aussi sur les méthodologies d'amélioration continue. Et c'est le premier à améliorer son secteur. C'est lui qui a pratiquement l'atelier le plus performant de l'entreprise. Mais ce n'était pas le cas il y a un an. Il y a des vases communicants extrêmement proches entre l'expérience personnelle et l'expérience dans l'entreprise.
Et dans le reportage que j'avais vu sur le web, qui doit remonter il y a un an ou 18 mois, on voyait donc du personnel qui apprenait qu'il allait pouvoir se former sur le web. Il ne savait pas taper à la machine. Et on voyait un moment de formation où il y avait des ouvriers. Il y en a un qui disait, où il est le blanc? Alors l'autre, il était là comme ça. Tac. Puis on les voyait comme ça. On se dit, la révolution va prendre son temps. Et en fait, à quelle vitesse est-ce que ça a été?
Oui, effectivement, elle prend son temps. Alors là, ça fait partie un petit peu des erreurs dans le projet. Oui, elle prend son temps. Effectivement, on a un scope d'utilisateurs qui va des utilisateurs très avancés à certains qui ne savent pas écrire. Mais ceci dit, le gars en question qui tape comme ça, et elle est où la majuscule et le blanc, au bout d'une heure et demie, il dit mais c'est un clavier de machine à écrire. Allez, ben oui, c'est un clavier de machine à écrire. Il y a 20 ans, j'en ai fait moi de la machine à écrire. Et là, ça prend beaucoup moins son temps déjà. Ça va beaucoup plus vite. Notre erreur, ça a été effectivement d'avoir un programme unique pour tout le monde. Évidemment, quand on est en production, il vaut mieux commencer par la vidéo, par le traitement d'image, par la prise de vue, que par de l'écriture blog. Ça, c'est évident. On a rectifié le tir et on a pu ramener plus d'ouvriers dans nos formations. Ceci dit, là aussi, quand on ramène nos ouvriers qui, par définition, ils sont réticents à acquérir des nouvelles compétences, eh bien on peut changer leur état d'esprit. On va dire, voilà, effectivement, tu es réticent à acquérir des nouvelles compétences. Je comprends, parce que toi, tu es en échec scolaire depuis toujours. Ok. Avec toutes les pincettes qu'il faut, hein, bien sûr. Mais dis, mais toi, tu as un savoir-faire. Tu n'arrêtes pas de nous dire que toi, tu as un métier, quand tu parles de ceux des autres usines. Nous, on a un métier, ils n'ont pas de métier, ainsi de suite. Ils se chicanent pas mal comme ça. Il dit oui, j'ai un métier. Bon, ben alors dans ce cas-là, tu vas aller filmer ton copain, ou on va te filmer, et dans ce cas-là, c'est plus toi qui reçois la formation, mais c'est bien ton tour de main qui va servir aux autres. Et de celui qui n'accède pas à la formation, tu deviens celui qui enseigne. Et là aussi, il y a un changement fondamental. Et là aussi, quand vous arrivez à faire passer ce message-là, nos ouvriers, ils se précipitent dans les salles de cours. Donc ça prend son temps, oui, mais il y a quand même des accélérations.
On peut passer aux questions de la salle. Jean-Michel Yolin.
Le premier exposé a porté en fait sur les usages loisirs. Et il y a beaucoup de choses qui ont révolutionné les loisirs. Il y a la télévision, l'invention de la pilule, les boîtes de nuit, la voiture, etc. Bon, c'est pas forcément inutile, dans la mesure où les petits chats, ils courent après les bouchons pour apprendre à courir après les souris. Mais il faut voir après, derrière, quelles sont les conséquences de cette appropriation de ces nouvelles technologies. Alors, conséquences qui peuvent être sur le plan social, fonctionnement des associations, qui jouent un rôle extrêmement important dans la société. Dans le domaine politique, il y a eu, notamment aux États-Unis, quand même des impacts politiques importants. Et puis le domaine économique, qui est quand même le plus important, parce que c'est celui qui fait vivre tout le reste. La santé, l'éducation et tout ça, ça ne vit qu'à mesure où l'économie existe. Et on voit bien qu'on est dans une situation qui, on fait partie du Club Med, qui n'a rien de gagné. Donc dans ce domaine, il y a d'un côté les start-up, qui peuvent être des auto-entrepreneurs ou des start-up très technologiques, enfin peu importe, on démarre, on fait un truc, on crée. Ça donne beaucoup d'opportunités de création. Et puis les grands groupes, où là on arrive dans des structures existantes et c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors révolution, je rappelle que j'ai commencé ma carrière en 1969 sur le projet développement des nouvelles technologies dans les lycées, où on a développé à la fois du calcul, ça c'est simple, de la modélisation pour la physique, des bases de données pour l'histoire, des SIG pour la géographie, de la prise de vidéo pour le sport, etc., qui marchait très bien avec 120 profs, mais c'est tombé à l'eau N plus une fois, puisque quand je vais terminer ma carrière, on n'aura toujours pas beaucoup et significativement avancé. Et j'ai été très intéressé de recevoir une alerte de Google la semaine dernière, où ce rapport est ressorti, un rapport qui est à l'école des mines, il est ressorti, je l'ai relu, et malheureusement, pas beaucoup changé dans la problématique et dans l'avancement des sujets. Alors après ça, on a abordé le problème des entreprises. Alors je prends là, pas les start-up, tu as dit qu'on n'en parlait pas, puis le sujet bien connu, parlons des entreprises entre guillemets « normales ». L'entreprise normale, on a surtout parlé de l'amélioration du fonctionnement interne. Alors ça, c'est sûr que c'est très intéressant. Ça permet, mais les vrais débats, et c'était plus ou moins dit, c'est entre une entreprise basée sur la confiance ou basée sur la défiance. Soit dans des services, des systèmes très hiérarchiques, des systèmes de reporting, soit on fait a priori confiance aux gens avec le risque de tentant de se tromper, mais ça les valorise, donc ils se défoncent et ça marche mieux. C'est absolument parfait. Sans oublier néanmoins qu'il y a des responsabilités dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quand même à trouver cet équilibre entre on prend une responsabilité qui peut avoir des conséquences graves sur le plan de la sécurité, sur le plan du développement de l'entreprise. Donc il y a là un problème qui est un vrai sujet, il n'y a pas de solution évidente. Par contre, ce qu'on n'a pas du tout abordé et qui est pour moi le sujet majeur et la vraie révolution, c'est dans les relations inter-entreprises. Je rappelle juste un petit exemple, Airbus, qui est typiquement pas branché sur ces approches, qui ne l'était pas, parce que Dieu merci, ça évolue, ça a coûté quand même 6,9 milliards sur un seul projet, parce que même en interne entreprise, ce n'était pas capable de communiquer. Or, l'évolution que ça entraîne, c'est que pour faire un avion, il faut en gros 5000 entreprises. Si on arrive à faire travailler ensemble les 5000 entreprises dans la conception de l'avion, dans la production, dans le service après-vente, ça, ça change complètement l'efficacité, ça change les vitesses, ça change les coûts, ça change le suivi qualité. Et d'autre part, ça amène à exploser l'entreprise de tête qui se recentre sur son cœur de métier et en gros externalise 60-70% de ses productions. Donc ça amène là une vraie révolution dans nos entreprises et ça entraîne dans cette révolution, une fois que les choses sont délocalisées, on ne sait pas bien où elles vont se relocaliser. Parce qu'on rentre quand même dans une structure mondiale et si le bon sous-traitant il est en Pologne ou en Chine, bah, il part en Pologne ou en Chine. Donc on a un vrai challenge existentiel et je pense que ça vaudrait la peine de se pencher sur cette partie qui est vraiment la vraie révolution.
Que c'est plutôt un point de vue qu'une question, donc moi je me sens pas forcément capable de répondre à ça, autrement quand même que bon, vous pensez que c'est le grand point. Imaginez le résoudre from scratch, ça me paraît un peu bizarre. Autrement dit, c'est bien parce qu'on aura développé tout un tas de choses peut-être plus faciles, peut-être plus générales. Je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles chez Airbus ils n'ont pas eu envie de bosser ensemble. Il n'y avait pas grand chose à voir avec les outils là-dedans. Et pas grand chose à voir, plein tout un tas de questions. Quoi. Bon, quand on n'a pas envie de bosser ensemble, de toute façon, c'est pas de l'ordre des outils. Quoi.
Michel Rouget, je suis le fondateur de l'Institut Présage, qui depuis plusieurs années fait des recherches sociétales plutôt appliquées à la justice et à l'économie, et qui bien évidemment s'est saisi de cette évolution du numérique il y a déjà quelques années. Alors, quand j'ai entendu M. Lippi, j'ai eu deux réflexions. La première, j'ai pensé à l'endroit dans le monde où le web a trouvé son maximum d'utilisation. Ce sont les salles de marché que j'ai bien connues dans une banque internationale de premier plan.
Et autant avez-vous pu maîtriser dans votre entreprise, autant les salles de marché n'ont pas tellement su maîtriser les éléments web qu'on avait mis à disposition de ces traders. C'est un fait, je n'ai pas de commentaire autre. Encore qu'il faudrait sans doute, comme a dit monsieur, pour les entreprises apparemment non financières, réfléchir à ce qui s'est passé dans les entreprises financières. Deuxièmement, j'ai pensé aux plus gros fabricants de clôtures et de protections qui soient en France, l'État. L'État, avec ses lois et ses normes, est un phénoménal fabricant de clôtures et de protections. Et là, je dois dire que je m'interroge encore ce matin deux fois sur la réaction de l'État face à cette révolution. Ce matin, j'étais dans une mission interministérielle dont l'objet s'adresse plutôt aux jeunes, donc aux grands spécialistes du web, pour constater que l'usage qui est fait, non seulement en France, mais dans les pays et vers toutes les populations avec lesquelles on peut se brancher, cet usage était un gigantesque frein à la capacité de l'État d'accomplir certaines de ses missions. Plus tard, j'ai eu à corriger le texte d'un expert judiciaire sur les difficultés d'user de la preuve en matière de web, ne serait-ce que parce que dans certains cas, on trouve à disposition dans le monde des bases de données soit chinoises, soit américaines, qui fournissent des éléments de preuve invérifiables, mais qui permettent de faire triompher des moyens de défense, voire d'accusation, alors que ceux qui ont à en juger sont muets et secs en face de ces éléments qui sont issus de bases de données totalement incontrôlées. C'est pour ça que, et Michel Berry le sait, je voulais simplement ramener dans une question l'État dans le débat, jusqu'où l'État acceptera-t-il le développement de toutes ces mini, voire micro-révolutions, puisqu'on a admis le principe que la maxi-révolution était exclue.
Je ne sais pas comment on peut entendre le mot révolution. Parce que je vais revenir sur la question de Jean-Michel Yolin. Est-ce que le développement des nouveaux systèmes de communication va changer les rapports de relations entre les entreprises? Et pour lui, c'est ça la vraie révolution. Moi, je dirais que c'est aussi une évolution assez naturelle. C'est-à-dire c'est un outil dont se servent ceux qui sont déjà au pouvoir pour avancer, pour aller plus loin, pour optimiser, etc. L'idée qu'a développée Christophe Day, qui m'a frappé, c'est qu'il y a une autre genre de révolution. C'est des gens qui étaient plus ou moins privés de pouvoir, plus ou moins bien socialisés, qui se mettent tout d'un coup à se servir de cet outil parce qu'ils ont du temps et parce qu'ils ont de la motivation et parce qu'ils découvrent qu'ils peuvent exercer un contre-pouvoir. Par exemple, un accident d'avion sur le Brio Paris. Donc le bureau enquête accident va certainement communiquer, mais il se trouve qu'il s'est créé entre-temps des forums auxquels beaucoup d'anciens pilotes et autres anciens de l'aviation participent, qui font des expériences, qui font des essais, qui font des dossiers, qui deviennent d'une solidité telle que la communication officielle a intérêt extrêmement bien au point. Serge Soudo-Platoff m'avait évoqué aussi un autre exemple. Le régulateur des Laguna était accusé de se bloquer sur l'autoroute, ce qui pouvait créer des situations d'accident. Alors évidemment, Renault a fait son enquête, mais il se trouve que des forums se sont constitués d'anciens de l'automobile, évidemment, qui réunissent une documentation technique considérable, évidemment, en contactant des gens dans l'automobile. Il y en a même qui ont été jusqu'à aller sur l'autoroute rouler comme des fous pour essayer de reproduire les conditions de l'expérience pour voir si le régulateur se bloquait vraiment. Donc ils ont pris le risque de choper une contravention, une suspension de permis pour nourrir leur passion qui était de comprendre ce qui avait pu se produire. Serge Soudo-Platoff m'avait dit qu'il avait dit aux gens de Renault qu'il y avait un dossier qu'il pourrait utiliser. Je crois que c'était jugé pas assez sérieux. Mais
la direction de l'innovation, quand j'ai fait mon rapport sur ce qu'on disait dans les forums, c'était en 2006, hein, avait dit on a fait 10 études de marché qui n'ont pas rapporté 20% de la richesse de ce que tu as vu dans les forums. Parce que c'est très simple, quand on fait parler les clients entre eux, on en apprend beaucoup plus. Et en revanche, oui, à l'époque, si j'ai bien compris, c'était remonté jusqu'au directeur marketing qui avait fait savoir que sur Internet, il y avait des emmerdeurs.
Oui, et donc le dossier, c'est pareil, il y a un dossier constitué. Il vaut mieux ensuite que la communication officielle soit au point. C'est-à-dire qu'en gros, tous les discours tenus par les institutions, les autorités, les politiques, les entreprises et tout, risquent d'être minutieusement vérifiés et facilement contredits par des gens qui ont du temps et qui découvrent que c'est merveilleux d'exercer un contre-pouvoir, surtout lorsqu'on est plus ou moins socialisé. Dans l'entreprise de Lippi, ce qui m'avait frappé, c'est bon, des gens qui étaient plus ou moins en échec scolaire, qui se sentaient pas vraiment des gens très valorisés socialement, se sont mis à s'enhardir, à s'organiser leur vie d'une manière qui leur permettait de mieux vivre dans l'entreprise, et puis qui leur permettait aussi d'être mieux considérés dans l'entreprise et à l'extérieur. Et puis, on utilise Twitter pour gérer la fabrication. Alors, je disais à Frédéric Lippi, mais attendez, si les gens règlent les problèmes aussi vite, à quoi servent les cadres? Eh bien, de moins en moins, les cadres disparaissent. Donc, si ça, ça ne s'appelle pas une révolution, la révolution, c'est l'accès au pouvoir de gens qui en étaient démunis. Et c'est quand même ça qu'on observe pour l'instant. Alors, l'accès au pouvoir, évidemment, ils ne vont pas devenir président de la République ou ministre. Sauf que l'équilibre des pouvoirs se transforme. Et je pense que les communications officielles, les discours officiels et tout vont devoir être sérieusement retravaillés parce qu'il y a une capacité d'érosion, de réaction étonnante. Les associations qui fonctionnent sans structure juridique, sans rien, elles ont un pouvoir d'action et de réaction considérable.
Moi, ce que j'ai constaté, c'est vrai, on fait fonctionner une entreprise sans encadrement. C'est tout à fait utopique. Si on fait fonctionner une entreprise avec un encadrement moins important. Et je constate qu'on remplace le pouvoir donné par la place dans l'organigramme par l'autorité. Et l'autorité, c'est les autres qui vous la donnent. Sébastien, il n'est pas mieux considéré. Il fait autorité sur le cercle avec qui il travaille et puis un petit peu au-delà. Et ce n'est pas nous qui l'avons décrété. C'est lui qui est venu ainsi.
Je voudrais réagir aux préoccupations du président Rouget sur l'État. Évidemment que l'État a absolument envie, en tout cas certains représentants de l'État, d'empêcher ces emmerdeurs, il n'y a pas d'autre mot. Ça c'est pour l'État français, pour les Chinois on sait tous que c'est encore plus radical. Pour les Iraniens on n'en passe de commentaires. C'est quand même assez incroyable s'ils sont arrivés à peu près à maintenir jusqu'à présent Internet. Ça commence à fuir, mais ce qui a fui le premier c'est Twitter. Quand vous avez le président Obama qui demande à Twitter de repousser de quelques jours une maintenance technique parce qu'il va y avoir une grande manifestation en Iran et qu'on aimerait bien savoir ce qui s'y passe, alors on voit que l'État, dans certains cas, met des barrières, dans l'autre, veut les ouvrir, etc. Et évidemment que l'État veut absolument essayer de faire quelque chose. Est-ce que c'est réaliste? Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Regardez comment l'État a absolument voulu nier le problème, par exemple, sur l'accélération des procédures d'adoption à Haïti. En l'espace de quelques secondes, sur Twitter, on disait « Mais attendez, mais c'est n'importe quoi, il y a plusieurs pays qui les ont déjà ramenés, les leurs. » Et donc vous avez un dispositif que l'on connaît, qui était complètement pris entre deux feux, avec une posture qui était « C'est comme ça qu'on a décidé, on ne veut pas accélérer ». Ils ont été obligés de ramener un certain nombre d'enfants, puis de promettre un certain nombre d'autres, et ainsi de suite. Ça s'est fait en quelques minutes. On comprend bien que certains, dans certains ministères, se disent « ça serait mieux si on était entre nous ».
Et évidemment, pratiquant moi-même le statut d'emmerdeur que monsieur a relevé à titre privé, je n'ai absolument aucune envie de me priver de liberté. Mais simplement, je pose la question, parce que l'État, c'est le pouvoir exécutif, mais c'est aussi la chaîne de l'encadrement dans de nombreuses entreprises. Ce n'est pas seulement le président de la République.
Elisabeth Bourguina.
D'abord, je voulais mentionner le fait qu'à l'École de Paris, on a aussi eu un entrepreneur qui est venu présenter une entreprise qui s'appelle Hervé Thermique. Bon, peut-être vous connaissez, il y a un livre qu'on a fait ensemble qui s'appelle « De la pyramide au réseau ». Et ce que vous avez dit m'a rappelé beaucoup de choses de ce livre. Vous avez parlé donc de la disparition des cadres. Moi, ce qui me pose problème, c'est la situation intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, si je comprends, si j'imagine, des équipes qui fonctionnent avec des cadres, d'autres qui fonctionnent sans cadre ou qui s'auto-organisent. Donc ceux qui restent, ils doivent avoir un problème un petit peu existentiel. Les cadres qui n'ont pas encore disparu, comment ils gèrent leur rôle dans l'entreprise? Ensuite, vous avez dit ça améliorait les résultats parce qu'évidemment, ça diminue les coûts puisqu'il n'y a plus de cadres à payer. J'aimerais savoir quel est l'impact de tout ça sur l'échelle des salaires. Est-ce que les économies que vous avez faites sur les cadres que vous n'avez plus à payer, finalement, bah, vous répartissez d'une façon ou d'une autre? Ou les gens qui prennent plus de responsabilités, est-ce qu'ils voient leur salaire qui augmente? Troisième question, évidemment, en haut de la pyramide, puisqu'il reste une pyramide, vous dites qu'il reste un encadrement, il y a vous et votre frère. Et donc, quelle est votre légitimité? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sur le même plan que Sébastien? Comment ça évolue? Et puis j'aurais une question pour Christophe. Il y a quelques jours, Daniel Cohn-Bendit a lancé un appel à structurer complètement quelque chose qui ne serait pas un parti, qui serait Europe Écologie, mais avec une structure, avec dedans les Verts, on ne sait pas bien. Bon, grande panique chez les Verts, et tout le monde se dit, mais comment on peut faire ça? Parce que alors, si on parle de disparition du pouvoir, à l'intérieur d'un parti politique. Je pense que s'il reste encore du pouvoir quelque part en France dans 200 ans, ça sera encore dans les partis. C'est la même chose, quoi. Pouvoir et parti. Et donc, comment vous, qui avez une imagination débordante, vous répondriez à Daniel Cohn-Bendit, qu'est-ce que ça serait l'organisation ou la non-structure ou la non-organisation d'un parti politique? J'ai posé la question à un ami qui est vert, qui a une place importante chez les Verts à Paris. Et j'ai dit, d'ici les municipales de 2014, vous allez vous structurer avec Europe Écologie ou pas, ou qu'est-ce que vous allez faire? Parce que moi, j'imagine bien que ça pourrait rester en réseau comme ça. Et puis au moment où il faut choisir les équipes, on choisit les candidats. Il m'a dit, mais tu as mis le doigt sur la vraie question, c'est la désignation des candidats. Comment tu veux que ça s'improvise comme ça? Il faut bien que ça soit préparé par un appareil, voilà. Donc je pense que le point d'achoppement le plus terrible, ça ne sera pas l'entreprise à mon avis, ça sera les partis politiques. Hein, et donc qu'est-ce que vous imagineriez pour sortir de là?
Alors, oui, Hervé Thermique, oui, c'est une entreprise qu'on connaît bien, en tout cas on connaît un peu son parcours. Et donc vous savez où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire fonctionner une entreprise sans encadrement, mais avec moins d'encadrement, et surtout avec un rôle de l'encadrement réécrit. Alors, sans vouloir être caricatural, j'ai trouvé, en tout cas dans l'entreprise que je dirige, que l'encadrement, avec le temps, avait eu un rôle qui s'était finalement largement cantonné au contrôle. Et pas assez, à mon avis, de support et d'accompagnement à la résolution des problèmes. Et finalement, c'est tout ce chemin qu'il faut faire, c'est réécrire. La gestation qui est chez nous, c'est celle-ci, c'est la réécriture de la mission de l'encadrement. Et l'encadrement, il vient en support. Il n'est pas là pour contrôler les horaires des uns et des autres. Il n'est pas là pour contrôler les notes de frais, pour contrôler ce qui est bien fait, ce qui est mal fait. Mais pour essayer de mesurer, de comprendre ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. Et d'essayer d'améliorer avec ceux qui savent, avec ceux du terrain, ce qui ne va pas. Mais c'est une révolution. Et c'est pour cette raison-là qu'ils s'en vont, en tout cas, ils s'en vont tout seuls. Et je crois d'ailleurs que l'histoire d'Hervé Thermique le dit assez bien. Ils s'en vont tout seuls.
Ou les aider même.
Ou les aide, ça veut dire...
À sortir.
Non. Non. Enfin, on ne les aide pas à sortir. C'est celui qui ne veut plus rester, il ne veut plus rester. Je veux dire, bon, s'il a un projet, on accompagne son projet. S'il n'a pas de projet, il s'en va, point. Il y a de malice, si vous voulez, dans mon approche de l'encadrement. Il y a des constats, c'est tout. Je constate que dans des organisations où vous donnez la parole aux ouvriers, eh bien, l'encadrement qui fonctionne sur les attributs du pouvoir est très mal. Il est tellement mal qu'il s'en va. Il n'attend pas qu'on ait réécrit ce qu'il doit faire. Ça, c'est le premier point. Alors, sur l'échelle des salaires, c'était une plaisanterie. Ceci dit, sur le compte de résultats, ce n'est pas tout à fait une plaisanterie, puisque ça part en quelques pourcents de la masse salariale. Ce n'est pas tout à fait rien. Enfin, vous avez parlé de légitimité, qu'on est toujours légitime. Et ça rejoint les discussions qu'on a avec Serge Soudoplatov. Et finalement, si tout le monde peut s'exprimer, à quoi il sert le patron? À quoi il sert? Le patron, il donne a priori la vision, et aujourd'hui pour nous les priorités. Il continue à établir la stratégie et s'assurer qu'elle se met correctement en œuvre. Et la légitimité, elle va là-dedans. Elle est à cet endroit-là. Si je reprends Sébastien, lui, il ne se pose pas de questions, il sait bien qui c'est le chef. Il sait bien ce que le chef a apporté pour lui, ce que le chef a changé dans sa vie. Là, on est tous des animaux, la meute de loups, ils suivent le chef parce que c'est celui qui sait où il y a la bouffe. Ah, c'est simple. Eh bien, je crois que le client, excusez-moi, ça va paraître presque marxiste. Moi, je crois que le client, il paye la valeur ajoutée directe fournie par l'ouvrier dans une organisation industrielle. Voilà, il paye ça, point. Et il paye la valeur ajoutée par l'ouvrier. L'ouvrier, il accepte qu'on retranche de la valeur, il essaie de payer le patron parce que le patron, il espère qu'il lui donnera des perspectives de vie à long terme. Il est clair que ce n'est pas l'encadrement qui va lui donner des perspectives de vie à long terme. Quand on en est là, il faut s'assurer que cette couche intermédiaire elle soit la plus fine possible et qu'elle pèse le moins possible sur la valeur ajoutée. C'est ma vision. Et je crois que c'est ce que les ouvriers ils attendent de moi. Qu'on les aide à faire leur métier mieux, tous les jours, plus confortablement, qu'ils puissent dégager correctement leur valeur ajoutée et que ce soit pérenne dans le temps.
Est-ce qu'ils ont été payés davantage?
On en vient effectivement à la question des rémunérations. À partir du moment où on dit, on ne va pas contrôler parce qu'on pense que le contrôle, c'est beaucoup d'argent pour arriver à pas grand-chose,
La contrepartie, c'est qu'on va faire confiance. Et à partir du moment où elle fait confiance, eh bien, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait des actes qui corroborent ce que l'on raconte. Et donc chez nous, on a modifié les structures de rémunération et on a intégré l'ensemble des primes, l'ensemble des systèmes variables dans le fixe. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a plus personne qui soit payé aux variables. Sauf, les vendeurs, parce qu'on traitera leurs problèmes après. Mais tous les autres, ils ont une rémunération fixe. Pas plus, pas moins. Pas plus qu'avant. On n'a pas réparti l'argent de ceux qui étaient partis sur les autres. Par contre, on travaille avec un système d'intéressement qui déclenche pratiquement au premier euro.
Très rapidement sur la politique, ce que l'on observe, c'est que partout dans le monde, à chaque élection, le poids d'Internet croît de manière significative, partout, à chaque fois. À chaque fois, ça crante. Que les partis soient la dernière chose transformable, c'est possible. J'observe qu'il semblerait en France qu'il y ait un grand parti qui soit un peu moins grand aujourd'hui. On se demande dans quel état il arrivera la prochaine fois. Il y en a un dont on sait qu'il sera encore présidentiable, mais dont on sait d'abord qu'il n'a plus le parti maintenant. Qu'il y en a une troisième qui pourrait bien se présenter même en dehors du parti. Pour les Verts, je ne sais pas. Mais finalement, peut-être qu'on peut un jour imaginer faire quelque chose sans les partis. On n'est peut-être pas là, mais en tout cas, à chaque fois, ça crante.
Jacques de Nantes.
Moi, je suis retraité et je travaille sur l'échec scolaire. Ma question, c'est la question du vrai et du faux. C'est-à-dire, les exemples que vous avez donnés supposent que les gens ont du bon vouloir. Hein. Ils essayent de contribuer à un bien commun. Hein. Mais on voit très bien qu'il peut y avoir autre chose, parce que les réseaux sont anonymes et on voit très bien le rôle de la calomnie. Notamment, on a vu aux États-Unis la campagne d'Obama là, sur ses lois de sécurité sociale. Bon, il y a des exemples en France aussi, mais enfin, je ne veux pas m'étendre. Et alors, la question, c'est ça, au fond, comment est-ce que vous traitez la calomnie? Comment vous traitez le mauvais vouloir, l'anonymat? Au fond, c'est le problème du mal dans ce grand système que vous avez décrit. Vous avez parlé du bien, mais vous avez oublié qu'il y a aussi le mal et avec toutes ses dimensions.
Comment traiter la calomnie? On peut la traiter de deux façons différentes. Où on peut découper
la volonté de détruire.
La volonté de détruire, j'ai bien compris. Je vais séparer la réponse en deux parties distinctes. La première, c'est la calomnie extérieure. C'est-à-dire ce que, en dehors de votre organisation, on peut raconter sur vous. On ne peut pas empêcher les autres de raconter qu'ils ont envie de vous détruire, de vous calomnier. On ne peut pas les empêcher. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est être au courant le plus rapidement possible. Et on utilisera les technologies pour être au courant. Enfin, en tout cas, pour fabriquer une veille à 360 degrés sur notre nom, sur notre marque, ainsi de suite, et pour s'assurer qu'il n'y a personne qui raconte des choses qui sont fausses sur nous. Et ça, c'est pour l'extérieur. On ne peut pas l'empêcher, mais on peut être extrêmement réactif. Et en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire. Pour ce qui est de l'intérieur de l'organisation, évidemment, ça peut exister. Nous, on part sur le principe que c'est un pari. Qu'il y a plus dans notre entreprise d'individus qui ont profité très positivement de ce qui s'est passé, de l'ouverture au web, que de personnes qui en ont été victimes et qui pourraient dire « oui, ben, c'est pas bien pour ça, ça c'est faux, ça c'est pas vrai », ainsi de suite. Chacun peut s'exprimer, on peut exprimer son mécontentement. On essaye de faire en sorte que le web, en tout cas le web dans notre entreprise, ne soit pas un défouloir. Et là, dans ce cas-là, il y aura un modérateur. Mais sur un an et demi, presque 2 ans maintenant d'expérience, on n'a pas eu à faire face à des comportements de la sorte, bien qu'on ait pris des décisions qui n'aient pas été franchement populaires et qui auraient pu générer ce genre de comportement. Je pense particulièrement quand on intègre les primes dans le salaire, à quel niveau, sur quelle moyenne, sur combien d'années. Il y en a qui ne sont pas forcément contents, il y a des gagnants, il y a des perdants. Les perdants auraient pu dire qu'ils n'étaient pas contents, ce n'est pas le cas. Je reviens un petit peu en arrière, on a aussi récemment retiré les véhicules de fonction. Et donc évidemment, ce n'est pas très populaire, je constate qu'il ne se passe rien sur le web. En tout cas sur notre web.
Est-ce que c'est anonyme ou est-ce que les gens sur votre web, c'est nominatif?
Ah non, il n'y a pas de pseudo. Hein.
Ah oui, d'accord.
Il n'y a donc pas de pseudo. La convention de nommage pour Twitter, c'est le nom de l'unité, donc U1 underscore, votre prénom et votre nom, à défaut votre trigramme.
D'accord. Tout le monde donc là, c'est vrai que la calomnie circule mieux avec l'anonymat.
Il faut s'identifier un minimum.
Moi, j'observe que la calomnie a toujours existé, le mal aussi. Ce qui me perturbe plus dans Internet, je suis d'accord, il y a plein de choses extraordinairement malsaines, c'est pas la calomnie que le terreau sur lequel ça s'inscrit. En fait, la calomnie, c'est grave quand on peut y croire. Quand c'est évidemment inimaginable, abracadabrantesque, finalement, il n'y a pas de problème. Et là, j'observe une chose, c'est qu'on croyait être dans une société de plus en plus individualiste, et nous sommes en train de passer, c'est assez évident pour plein de monde qui observe, une société qui devient de plus en plus communautaire, avec tous les défauts que l'on peut commencer à anticiper, car le communautarisme, fût-il virtuel, c'est quand même du communautarisme. Il y a 2 ans, quand j'ai parlé ici du Web 2.0, j'ai fini de manière assez précise en disant, ben voilà, le management moderne, scientifique, avait voulu éradiquer ben justement tous ces tours de main organisés en guides professionnels qui disaient aux managers d'il y a très longtemps, oh, oh, moi je sais bien faire quelque chose, ça prend tant de temps, etc. On sait qu'on a été un peu loin peut-être dans les processus, l'entreprise ne se résume peut-être pas à la somme de ces processus. On est en train visiblement de repartir dans l'autre sens. On peut anticiper forcément les effets extrêmement dévastateurs quand on sera un petit peu avancé dans le communautarisme. Pour l'instant, on a plutôt quand même à observer des choses plutôt positives parce qu'on vient de tellement loin dans l'autre sens. Mais évidemment que le communautarisme virtuel, ça a beaucoup d'inconvénients.